RCF.
Nous passons ce temps de l'Avent avec vous, Monseigneur Malouf. Vous êtes archimandrite de l'église Melkite ici à Paris. On évoque le sens de cette conversion. Vous, aujourd'hui, ici, vous êtes responsable de l'Institut catholique de Paris de la théologie patristique, ainsi qu'à l'Institut chrétien d'Orient, également à Paris. Et vous êtes rattaché au rite grec Melkite catholique qui dépend du patriarche d'Antioche. On évoquait avec vous le sens de l'Avent et notamment le sens de la conversion. Pourquoi est-ce que l'Avent est particulièrement un temps de conversion? On pourrait se dire que la vie du chrétien est au quotidien une conversion à opérer. Pourquoi est-ce que spécifiquement pendant ce temps de l'Avent, on y accorde une importance majeure?
Vous avez raison de dire que la conversion est un processus perpétuel, permanent. Ce n'est pas uniquement lié à un temps spécial. Mais si on insiste pendant le temps de l'Avent sur la conversion, c'est pour dire que nous sommes appelés pendant ce temps à prier davantage pour accueillir Jésus dans notre cœur. Et c'est cela le sens de la conversion. Le terme conversion, on le sait, vient du grec « metanoia », qui veut dire changement, transformation. En quelque sorte, la conversion nous appelle à transformer notre mode de vie, notre façon de vivre, de voir, de se comporter pour devenir de plus en plus chrétien. Et donc, ce temps de l'Avent, justement, nous appelle à cette conversion spirituelle pour que nous puissions accueillir Jésus dans notre monde et que cette fête change quelque chose dans notre vie et dans notre engagement.
Mais est-ce que vous avez le sentiment que les chrétiens aujourd'hui prennent vraiment les moyens de se dire « Pendant ce temps de l'Avent, je vais placer Jésus au cœur de ma vie. Pendant ce temps de l'Avent, je vais essayer de transformer ma manière de vivre. » Est-ce que ce n'est pas des éléments de langage un peu répétés d'année en année? Qu'est-ce qui fait que le chrétien va véritablement changer sa vie?
Exactement. Le risque, c'est de transformer notre prédication, notamment sur la conversion, de la transformer en un langage habituel, rituel,
routinier presque.
Exactement. Mais le but, je pense, de la conversion et de la foi chrétienne, et on l'oublie souvent, hélas, c'est que c'est une démarche qui vise justement ce changement de vie pendant toute la vie. La foi n'est pas de la magie. Ce n'est pas parce que j'ai décidé que je vais changer ma vie que ça va être du jour au lendemain. C'est une démarche de changement, de conversion justement, de transformation. Et cela, d'ailleurs, on le dit tout le temps, demande une grâce.
Une grâce et un discernement
et
peut-être.
Un discernement de la part de la personne. On ne peut pas changer notre vie tout seul. D'où l'importance du Christ dans notre vie. Et le changement, il ne s'agit pas de... C'est pas un, je signe un changement sur un papier et ça y est, c'est fait. Parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est pour cela que c'est le Christ qui presque opère ce processus de conversion en nous. Et ce n'est pas nous. Et donc ça demande aussi beaucoup d'humilité, beaucoup de temps, beaucoup de grâce, beaucoup de discernement pour que nous puissions vivre au fur et à mesure cette conversion.
Est-ce qu'il faut prendre un temps pour évaluer les difficultés, la nature aussi des difficultés,
à
se détourner et de quoi se détourner?
Tout à fait. C'est pour cela que l'Église nous appelle pendant ces temps forts de l'année à se confesser. Se confesser, ce n'est pas juste dire mes péchés, c'est justement demander la grâce de changer ma vie, de transformer tout ce qui est négatif en positif, de faire cette démarche spirituelle, et j'allais dire d'accomplir cette conversion qui est un appel à la, comme on dit chez les pères de l'Église, à la divinisation.
Ça commence par quoi?
Ça commence par déjà reconnaître notre péché. Très souvent, on ne reconnaît pas que nous sommes pécheurs. Mais il ne suffit pas de le reconnaître comme ça, il faut le reconnaître intérieurement, spirituellement, et se dire, voilà, je vais changer telle ou telle chose dans ma façon de faire, dans ma façon de se comporter, dans ma façon de parler. Ne pas blesser, par exemple, ceux avec qui je travaille, ou mon entourage en famille, ou en communauté, ou dans l'église. C'est des petites choses. Il ne faut pas imaginer que la conversion, c'est un acte héroïque, mais ça commence par des petites choses. Et ces petites choses peuvent changer ma façon de faire, et justement, peuvent changer mon entourage. Et c'est comme ça que nous devenons chrétiens. Rappelons-nous, à Antioche, dans les Actes des Apôtres, nous avons ce témoignage. Pourquoi on les a appelés, ces premiers chrétiens, comme chrétiens? Parce qu'ils s'aimaient. Et donc, un signe palpable de cette conversion, c'est l'amour. Et là aussi, il ne faut pas que l'amour devienne une théorie belle, un discours beau et aucune activité. Il faut vraiment incarner. C'est ça, le Noël. Dieu s'incarne. Et donc la foi doit être incarnée, l'amour doit être incarné, la conversion doit être incarnée par des actes, des actions, peut-être intérieures, spirituelles. Mais il faudra qu'on incarne ce changement de vie par des paroles, par des gestes, par aussi peut-être des actions caritatives. C'est là où l'Église nous appelle à être généreux pour aider nos frères, qu'ils soient en Orient ou ici.
Alors vous évoquez l'humilité, le courage, la charité, la confiance. Est-ce qu'il faut aussi de l'inventivité pour vivre l'avant?
Moi je dirais déjà l'humilité est quelque chose de très difficile et il faut être inventif pour la vivre. Parce que là aussi, on imagine que l'humilité c'est de se voir ou de se penser comme médiocre ou pauvre. C'est une façon, à mon avis, erronée de vivre l'humilité. L'humilité, c'est justement cette imitation du Christ lui-même qui se donne à tout le monde par amour sur la croix. Un Dieu qui est tout-puissant, qui est grand, devient petit, fragile, pauvre, comme nous, pour nous sauver. Donc notre humilité doit imiter l'humilité de Dieu lui-même. Cette humilité se voit pleinement dans l'incarnation. Dieu qui devient pauvre, qui devient fragile. Vous imaginez un enfant, n'importe qui peut le tuer ou peut l'agresser, et Dieu est devenu un enfant pour nous. Cela veut dire que justement, l'humilité à laquelle nous sommes invités est un acte inventif.
C'est finalement un moment où le chrétien se ressaisit.
Exactement, dans la prière, et moi j'insiste dans l'amour, c'est l'amour qui change l'autre. Parce que très souvent, on s'imagine qu'en allant à la messe et en priant, on va changer le monde. C'est vrai, on change le monde par la prière. Mais la prière doit être accompagnée par des gestes, par des comportements, par des actes. Sinon, la foi devient une théorie. Et donc, la foi est une expérience, non seulement une théorie.
Comment est-ce que vous, par exemple, au quotidien, vous les vivez, ces différents avants, et notamment celui de cette année? Est-ce que, par exemple, chaque année, vous vous dites vous-même personnellement, tiens, je vais m'engager là, ou tiens, je vais lire ce livre, je vais essayer, vous, Monseigneur Mahalouf?
D'abord, je vis ce temps de l'avant par une confession, par aussi des méditations que je lis tous les jours. Parfois, je relis l'Évangile et je médite l'Évangile de Matthieu, de Jean, etc. Mais en même temps, j'essaie aussi personnellement de faire des actes de charité envers des gens que je connais, que je peux aider, non seulement matériellement, mais spirituellement. Je pense que c'est un temps où le prêtre doit être à l'écoute des autres, surtout dans ce monde qui s'agite de plus en plus, qui devient agressif de tous côtés. Eh bien, nous avons besoin d'un homme de paix qui, par son silence parfois, on peut aider les autres. Par un sourire, on peut aider les autres. Donc là aussi, la foi est une expérience simple, humble, mais réelle.
Ce que vous disiez, ça nécessite aussi d'accepter de prendre la réalité telle qu'elle est, la nôtre aussi. Ce qu'on est nous-mêmes, vous appeler à devenir fragile, c'est pas tout à fait ce dont on a envie.
C'est le Christ qui nous appelle à accepter notre fragilité. C'est Dieu qui devient fragile pour nous. Donc, pour moi, le mystère de l'incarnation que nous célébrons à Noël, c'est le mystère de la foi chrétienne par excellence. Et c'est pour cela, d'ailleurs, si on remarque la prédication de saint Paul auprès des Grecs et des païens, rappelons-nous par exemple cet épisode où il parlait de ce Dieu inconnu, et saint Paul disait aux Grecs, c'est Jésus-Christ, Dieu mort et ressuscité. Ils ont dit, c'est un homme qui est complètement fou, on t'écoutera une autre
fois.
Ils
l'ont quitté, oui, ils sont partis.
Mais c'est là toute la démarcation de la foi chrétienne avec la philosophie grecque, avec les païens, mais aussi avec toutes les religions, même celles qui sont dites monothéistes, le judaïsme et l'islam. C'est un Dieu qui devient pauvre, qui désire l'homme, qui s'incarne pour l'homme, qui oublie, je dirais, sa majesté et sa grandeur pour nous rappeler notre petitesse et notre fragilité. Et donc l'Église, ici, doit elle aussi se souvenir qu'elle est fragile à la manière du Christ.
Merci, Monseigneur Mahalouf. Vous êtes archimandrite de l'Église Melkite. Ici à Paris, vous êtes responsable à l'Institut catholique de la théologie patristique. C'est votre spécialité et vous l'exercez également à l'Institut chrétien d'Orient. Merci à vous.
Merci.